Nous poursuivons et nous terminons ce matin notre série sur Genèse 1 à 11. Et pour cela, il nous faut raccrocher les wagons avec ce que Michael a partagé avec nous la semaine dernière. Souvenez-vous, le nouveau redémarrage avec Noé, un nouveau commencement et pourtant le constat, l'histoire se répète, l'homme continue à faire le mal. Et c'est là son penchant naturel et on retient de ce que Michael nous a expliqué la semaine dernière que ce nouveau, malgré l'échec dans ce nouveau recommencement, Dieu n'exécute pas son jugement, mais il le reporte. Et ce matin, nous allons terminer avec un autre épisode qui est celui de la tour de Babel. Alors j'imagine que beaucoup d'entre nous, nous connaissons ce récit, mais avant de lire le texte, j'aimerais vous faire réagir par rapport à une image. Alors, je vais partager mon écran et puis on va. Voilà. Est-ce que vous voyez l'image? C'est une feuille blanche, hein. C'est bien ce que vous voyez. Parfait. L'image à laquelle j'aimerais vous faire réagir, c'est la suivante. Quand vous voyez cette image, qu'est-ce que cela vous. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez, c'est une image réelle, d'ailleurs peut-être que quelqu'un trouvera le pays dans lequel cette tour est construite, mais qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, vous pouvez brancher vos micros et tous vos commentaires sont les bienvenus. Merci beaucoup, Aloïs. Vos remarques? Ça ressemble à une fusée, hein. C'est vrai que on a l'impression que la forme effectivement pointe vers le ciel, comme si c'était une manière de faire un lien avec le ciel et la terre. Merci Dolores. Est-ce que vous avez, allez-y, hein, d'autres commentaires. Ça ressemble à une flèche. Et par rapport à la taille des autres bâtiments, on est dans la démesure. C'est manifestement l'intention de cette construction. J'ai pas compris. La dernière. Oui, il y a l'idée d'une domination aussi. En fait, pourquoi est-ce qu'on a l'idée de domination? Parce que ça impressionne quand on voit. Et pourquoi l'impression est forte? Justement, à cause de la différence de taille entre des immeubles qui sont au premier plan, qui sont déjà, certains ont plus d'une dizaine d'étages, et puis derrière, vous avez cette tour qui est phénoménale. Encore quelques remarques? Techniquement remarquable, donc ça traduit du savoir-faire, effectivement. Allez-y, je ne veux priver personne, mais. Et on sent, hein, la fierté. Et l'orgueil, alors ce serait l'orgueil de qui quand on voit cette tour? Vous dites, qui veut briller par cette construction? Les hommes? Celui qui l'a construit, l'architecte? Et si c'est un projet d'État, une construction qui n'est pas un projet privé, tel qu'une chaîne d'hôtels, vous diriez quoi? Ben, que c'est une manière pour le pays de se glorifier et d'impressionner ses voisins. Alors, avez-vous trouvé le pays dans lequel cet hôtel a été construit? Non, c'est pas la Chine, mais on est en Asie. Non plus, c'est pas le Qatar, c'est très vert hein, pour être au Qatar. Non, c'est pas le Brésil. En Angleterre non plus. En fait, effectivement, c'est en Corée du Nord. C'est en Corée du Nord, pays régulièrement frappé par la famine. En fait, c'est un projet fou d'un dictateur qui fait construire un édifice dans la démesure. Alors ce matin, on va lire un épisode et vous allez rapidement comprendre les parallèles que je vais faire avec la photo que nous avons montrée. L'épisode de la tour de Babel se situe donc dans Genèse au chapitre 11, et nous allons lire tout à l'heure les versets 1 à 8, je vais les afficher, mais le chapitre d'avant, Le chapitre 10 indique la descendance de Noé et leur répartition géographique. En fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que chronologiquement, le chapitre 11 se trouve avant le chapitre 10. Dans le chapitre 10, nous avons les généalogies, les descendants de Noé. Et ce qui est significatif dans cette descendance, c'est qu'on associe à chaque fois le lieu d'habitation de tels descendants. Hein, par exemple, Nimrod est devenu un puissant seigneur qui construit plusieurs capitales, dont Babel. Au verset 14 du chapitre 10, il y a une autre descendance qui vont devenir les Philistins et les Crétois. On parle de l'île de Crète ici. Et puis le chapitre 10 se termine par cette affirmation au verset 32. C'est d'eux que sont issus tous les peuples de la terre qui se sont répandus sur la terre après le déluge. Donc le chapitre 10 donne la généalogie et termine en disant « Voilà toutes les nations qui se sont répandues sur la terre. » Or, cette dispersion des peuples sur la surface de la terre est la conséquence d'une sanction de Dieu que nous allons lire ce matin dans le chapitre 11. Notre récit de l'histoire de Babel se termine au verset 9. C'est de là qu'il les a dispersés sur toute la terre. En fait, Genèse 10 et Genèse 11 fonctionnent de la manière suivante. Genèse 10 donne la généalogie et explique où se sont dispersées les nations, les descendants. Et le chapitre 11 nous dit pourquoi ils ont été dispersés. Donc chronologiquement, le chapitre 11 se situe avant le chapitre 10. Et je vous propose maintenant de lire ce récit. À cette époque-là, tous les hommes parlaient la même langue et tenaient le même langage. Lors de leur migration depuis l'Est, ils découvrirent une vaste plaine dans le pays de Shinéar et s'y établirent. Ils se dirent les uns aux autres « Allons, moulons des briques et cuisons-les au four. » Ainsi, ils employèrent des briques comme pierre et le bitume leur servit de mortier. Puis ils dirent « Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet atteindra le ciel. Alors notre nom deviendra célèbre et nous ne serons pas disséminés sur l'ensemble de la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que les hommes construisaient. Il dit alors, « Ils forment un seul peuple, parlant tous la même langue. Et voilà ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, quel que soit leur projet, rien ne les empêchera de les réaliser. Alors descendons et brouillons là leur langage pour qu'ils ne comprennent plus, pour qu'ils ne se comprennent plus entre eux. » Et l'Éternel les dissémina loin de là sur toute la terre. Ils cessèrent donc la construction de la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que là, l'Éternel avait confondu le langage des hommes de toute la terre, et c'est de là qu'il les a dispersés sur toute la terre. Je vous propose deux parties ce matin. La première partie, c'est de comprendre ce que Dieu reproche aux hommes dans ce texte. Et la deuxième partie, ça sera la sanction de Dieu à l'égard de ce peuple à Babylone, à Babel, qui construit une tour. Mais avant, j'aimerais vous faire quelques brèves remarques sur le texte que nous venons de lire. Et là encore, j'aimerais vous poser une question. Quelle est l'image? Ça rejoint un peu l'exercice que Michael a fait tout au début du culte. Quand on vous dit tour de Babel, quelle est l'image que vous avez dans la tête? Est-ce que quelqu'un veut décrire? Tour de... Ouais. Ok. Une tour carrée en cours de construction, pas achevée. D'autres remarques? D'accord. En fait... C'est ça. En fait, on a une imagerie populaire hein, qui nous a influencé et qui montre souvent, à l'image de ce tableau qui est célèbre de Bruegel, qui montre une tour qui est plutôt ronde, avec des escaliers qui montent vers le ciel, et effectivement un chantier qui ne serait pas fini. En fait, il y a là des images qui ne collent pas avec la réalité du texte. Et j'aimerais noter deux différences significatives. Dans le texte, qu'est-ce qui est en construction? Au verset 5, il est question de la cité et de la tour. Donc ce que les hommes se mettent à construire, ce n'est pas seulement une tour, mais c'est une cité. Et le verset 8 va nous dire ce que Dieu va arrêter comme construction. Et si vous avez le texte sous les yeux, qu'est-ce qu'il dit au verset 8? Qu'est-ce que Dieu arrête? Il dit, ils cessèrent donc la construction de la ville. Donc il est bien plus probable que ce soit la tour qui ait été terminée comme chantier, mais pas encore la ville. Alors est-ce une tour ronde avec des escaliers, comme nous l'avons vu dans ce tableau? Babel est l'ancêtre de la ville de Babylone, qui se trouve actuellement en Irak, et les fouilles archéologiques ont effectivement permis de trouver les fondations de telles tours qui en réalité sont à base carrée. D'ailleurs, voilà, ça c'est typiquement, c'est une maquette, mais il est bien plus probable que la tour de Babel ait ressemblé à cette construction-là. On a trouvé des tours à base carrée qui étaient justement faites de briques cuites jointes avec des goudrons. En fait, il en existe plusieurs sur le territoire de Babylone, et l'archéologie les a mises à jour. Et ces édifices avaient surtout une vocation religieuse. C'était un espèce de temple fondation du ciel et de la terre, une manière de créer un lien entre la terre et le ciel. Mais c'était une manière aussi de faire venir les dieux sur terre. Donc un édifice qui était créé pour faire le lien entre les dieux et les hommes. Et c'était une pyramide à la base carrée qui mesurait à peu près 100 mètres de côté. Alors après avoir fait ces petites remarques sur le texte, j'aimerais vous proposer de se pencher sur cette question. Mais dans le fond, quelle est selon vous la faute et le problème en question dans ce récit? Qu'est-ce que Dieu reproche aux hommes? Quand nous avons lu le chapitre 6 de Genèse, il était facile d'identifier la faute des hommes parce qu'il y avait cette expression qui revenait de manière régulière, les hommes faisaient de plus en plus le mal, ou encore au verset 13 de ce même chapitre, à cause des hommes, la terre est remplie d'actes de violence. Mais ici, quelle est la faute? Quel est le reproche de Dieu? Il y en a deux, au verset 2, ils s'établirent dans le pays de Shinéar. Et ça semble être un reproche que Dieu fait. Et au verset 4, ils ont construit une ville et une tour pour se faire un nom et éviter la dispersion. En fait, il y a là deux reproches que Dieu fait. L'arrêt de la dispersion, pourquoi est-ce que c'est une faute? Ils s'établirent dans le pays de Shinéar. Hein, c'est vraiment le. Voilà que Dieu. Voilà qu'il s'était dispersé après le déluge sur la surface de la terre, mais voilà qu'il s'arrête dans le pays de Shinéar. Et cet arrêt de la dispersion sur la surface de la terre fait écho à Genèse 1, verset 28, où Dieu avait dit aux hommes, on est encore avant la chute, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Le fait de s'installer dans le pays de Shinéar est un acte de désobéissance par rapport à l'ordre bénédiction que Dieu avait donné aux hommes, à savoir de se répandre, de se disperser sur la surface de la terre. Les descendants de Noé vont donc désobéir à cet ordre. Ce qu'ils font est délibérément contre la volonté et la bénédiction que Dieu avait prononcée sur les humains. Et puis il y a un deuxième reproche qui est fait dans ce texte, se faire un nom, construire une cité, construire une ville et une tour. Et il est bien dit pour éviter d'être dispersé. C'est comme s'il y avait une crainte qui était associée pour ces hommes à partir sur la surface de la terre pour s'y disperser et pour l'habiter. Et face à cette dispersion horizontale qui ne va pas se faire, ils ne vont pas partir sur la surface de la terre, les hommes vont répondre par une sorte de dispersion verticale. On ne va pas continuer à vivre sur la surface de la terre, mais on va vivre en hauteur, en construisant une tour. Et quelle est la caractéristique de cette tour? Atteindre le ciel et devenir célèbre. En fait, l'idée de cette tour, c'est d'un temple, un pivot qui va relier la terre et les tréfonds du ciel. Toucher le ciel à l'aide d'un gratte-ciel, c'est créer un lien entre la terre et les dieux qui habitent les ciels. Et c'est une tentative pour les hommes de se connecter au divin, mais aussi pour que les humains puissent se mettre à la hauteur des dieux. Et d'une certaine manière, enfin, c'est pas, même pas d'une certaine manière, nous avons là un écho à deux textes de Genèse 3. Genèse 3, verset 5, après la chute, après la désobéissance, Dieu dit, non, c'est le diable ici qui parle et qui dit, seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, décidant vous-même ce qui est bien et ce qui est mal. Et à la fin du chapitre, au verset 22, Dieu dit, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous pour décider du bien et du mal. Maintenant, il ne faudrait pas qu'il tende la main pour cueillir aussi le fruit de l'arbre de la vie, qu'il en mange et qu'il vive éternellement. La construction de cette cité et de cette tour devient une démonstration en puissance de la conséquence de la chute. Après avoir écarté Dieu pour définir ce qui est bien et mal, l'homme se construit lui-même comme référence, il devient son propre Dieu, et c'est l'homme qui va définir ce qui est bien et ce qui est mal. Il décide à la place de Dieu de s'installer dans la vallée de Shinéar au lieu de remplir la surface de la terre comme Dieu le lui avait demandé. Il construit une tour-temple pour se faire un nom. En fait, c'est un édifice non plus à la gloire de Dieu, mais à sa gloire, à la gloire des hommes. Et on note au passage que le peuple est unanime dans l'idée qu'ils parlaient la même langue et tenaient le même langage, souligne aussi qu'ils étaient un dans ce projet, en plein accord. Un peuple uni autour d'un projet pharaonique. Et ici, le récit de la tour de Babel pointe une faute collective. Après Genèse 3, nous avions la description de tout le mal que l'homme est capable de faire en tant qu'individu. Souvenez-vous, le meurtre d'Abel, la soif de vengeance d'Abimélec, l'ivresse de Noé. L'accent dans ces récits était mis sur la corruption individuelle et les actes individuels de ces hommes. La capacité à l'homme en tant qu'être individuel à faire le mal. Mais ici, dans le récit de la tour de Babel, c'est la propension d'une nation à s'enorgueillir, à démontrer sa puissance, pour intimider, impressionner, être glorifié. Ici, le mal, il est collectif. C'est-à-dire, c'est le mal qu'une nation peut commettre lorsque les hommes s'unissent pour un projet qui glorifie leur nation. Et au verset 6, Dieu dit que rien ne les empêchera maintenant d'empêcher, rien ne les empêchera de réaliser tous leurs projets. Ils ont la maîtrise de la technologie, les briques en terre cuite et l'utilisation du bitume, donc du goudron. On est dans une zone de la terre où il y a beaucoup de pétrole, donc le bitume était utilisé comme ciment pour joindre les briques à l'autre. Et la langue commune n'empêchera plus la communauté humaine de réaliser ses projets les plus fous pour dominer, s'enorgueillir et s'opposer de manière concertée et unanime à Dieu. En fait, un peuple qui est uni n'a dans un certain sens plus de limites, ce qui peut l'empêcher, ce qui ne l'empêchera plus de commettre le pire. Et puis quand une communauté humaine s'unit de telle manière, une des conséquences, c'est aussi à niveler les individualités. On n'est plus personne individuellement dans un tel projet. Par exemple, la Corée du Nord, aujourd'hui, montre à quel point tout écart d'un individu par rapport au groupe est lourdement sanctionné. Or, la diversité des personnes dans leurs goûts, dans leurs aspirations, dans leurs idées, reflète aussi l'image de Dieu que nous portons. Et la faute aussi de Babel, de ce peuple qui s'unit, c'est quelque part de niveler ce que nous sommes en image de Dieu, pour que tout se ressemble et que tout soit mis, que tous les hommes travaillent à un seul et unique projet. Alors le texte de Babel ne critique pas l'urbanisme des villes. L'histoire de Babel montre que dès nos origines, le mal s'est aussi introduit dans les structures humaines comme la nation pour former des projets qui s'opposent à Dieu. Et depuis Babel jusqu'à nos jours, il y a constamment eu de tels projets dans l'histoire. Récemment, au XXe siècle, quelle a été la motivation de Hitler en Allemagne? Faire de l'Allemagne la nation la plus puissante du monde. Vous connaissez peut-être ce slogan, Deutschland über alles. L'Allemagne au-dessus de toutes les autres nations. Se faire un nom. Dans quel but? Dominer les autres nations. Et cette entreprise de Hitler reposait sur l'entente. La nation était derrière lui. Et gare à ceux qui se sont opposés à ce projet, ils l'ont payé de leur vie. Et c'est aussi assez intéressant de voir que dans le nazisme, il y avait de gros projets immobiliers, des projets de construction. Tout n'a pas pu être construit parce que le règne de Hitler s'est arrêté. Mais on retrouve les mêmes ingrédients que nous trouvons dans le récit de Babel. Et pour nous aujourd'hui, dans le monde, est-ce qu'on ne parle pas encore, ici ou là, de la gloire de la France? Si vous avez suivi les élections aux États-Unis, il y avait la présence de ce slogan « Make America Great Again », faire de l'Amérique à nouveau une des grandes nations, la plus grande nation du monde. Ou alors encore la course des nations à devenir des superpuissances, il y a cette motivation, se faire un nom. Et nous retrouvons aussi cette tendance dans les architectures. Vous connaissez probablement cette tour. C'est la tour Burj Khalifa à Dubaï. Et une des motivations de la construction de cette tour, c'était impressionner ses voisins proches, notamment Qatar, qui est un grand concurrent de Dubaï. Alors, deuxième partie, qui sera un peu plus courte, que fait Dieu? Que va faire Dieu par rapport à ce projet? Une fois encore, son intervention est nécessaire et nous verrons qu'il s'agit en réalité bien plus d'un acte de grâce de la part de Dieu que d'une sanction. Le texte nous dit avec beaucoup d'ironie que Dieu descendit pour voir la ville et la tour que les hommes ont construite. En fait, Dieu doit descendre alors que la tour était censée le rejoindre, être à son niveau. Et là, nous avons un contraste entre la grandeur de Dieu à laquelle les humains essayent de se hisser et l'échec de leur tentative. Car finalement, c'est Dieu qui doit descendre sur la terre. Comme si Dieu devait se pencher au bord du ciel pour essayer de distinguer quelque part la petite tour que les hommes ont essayé de construire. Et Dieu descend du ciel pour mettre fin à ce projet en faisant trois choses. La première, c'est la confusion des langues. Dieu a brouillé les langues. Dieu arrête cette entreprise par la mésentente entre les hommes. Il met fin à la prétention des hommes de dominer le divin, à être comme Dieu, à être puissant comme Dieu, à être capable d'atteindre la demeure de Dieu. La mésentente qui va découler de le fait de ne plus pouvoir se comprendre va arrêter la construction. Et c'est le deuxième effet. Dieu met un terme au projet des hommes qui voulaient se faire en nom. Et la troisième, c'est la dispersion. À cause de l'intervention de Dieu, va se réaliser l'ordre à nouveau que Dieu a donné à l'homme, remplir la surface de la terre. À cause de la chute de la terre, est-ce que la terre était devenue hostile à cause de cette chute? Est-ce que l'homme avait peur de la conquérir? Peut-être. Mais l'intervention de Dieu va remettre les choses dans l'ordre et ainsi va se réaliser ce que Dieu avait commandé à l'homme de remplir la surface de la terre. Que se serait-il passé si Dieu n'était pas intervenu? Probablement que cette cité et cette nation auraient été livrées à son penchant naturel, l'orgueil et le sentiment de toute-puissance. Et là, nous voyons un signe de la grâce de Dieu. Dieu aurait pu mettre fin à cette entreprise par un nouveau déluge, un autre jugement. Mais encore une fois, il stoppe l'homme et la nation dans sa folie, et c'est un signe de sa grâce. Il n'est pas descendu du ciel pour juger, mais pour disperser et ainsi limiter la propagation du mal. Quelques mots pour conclure. Dans Philippiens 3, au chapitre 20, Paul parle des croyants et il dit, quant à nous, nous sommes citoyens des cieux. Et de là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus pour nous sauver. Le chapitre qui va suivre, le chapitre 11, c'est le chapitre 12 où nous allons faire la connaissance d'Abraham, cet homme que Dieu a appelé et dont la descendance va nous amener à Christ. Et avec Christ va naître une nouvelle nation. Cette nation, elle est composée de tous les croyants, c'est-à-dire de tous ceux qui ont placé leur confiance en Christ. Et le projet de cette nation, l'Église, ce n'est pas un projet pour construire une cité-tour. Quoique, la destinée de cette nation, c'est quoi? C'est les nouveaux cieux et la nouvelle terre, où nous n'allons pas construire une tour pour nous faire monter au ciel, mais où Dieu lui-même viendra habiter parmi nous. Cette cité ne sera plus caractérisée par l'orgueil, le besoin de se faire un nom, parce que notre nom, c'est celui que Dieu nous a redonné, puisqu'il nous a adoptés et puisqu'il nous appartient. Plus besoin de vivre dans la crainte des autres nations en se montant plus forte qu'elles, puisque la paix sera pour toujours sur la terre. Et les nations, le peuple de Dieu qui habitera sera constitué d'hommes et de femmes de toutes les nations et de tous les temps. Ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ, l'ensemble des croyants. Et il n'y aura plus d'hostilité, plus d'hostilité au sein de cette nouvelle humanité. Aujourd'hui, la puissance et l'orgueil des nations peut nous effrayer. Nous pouvons prendre peur lorsque nous lisons les rapports de force qui existent entre na les nations dans ce monde et la manière dont ça pourrait dégénérer. Mais nous, nous appartenons que temporairement et partiellement à ce monde. L'Église, c'est la nouvelle nation que Jésus-Christ rassemble par son sacrifice et son œuvre à la croix. Et nous avons la promesse d'une cité céleste où nous pourrons nous installer pour toujours et pour l'éternité et où le mal ne sera plus. Et le début de ce processus, ça a été une anti-Babel. La Pentecôte, des Juifs de tout le pourtour méditerranéen qui étaient réunis à Jérusalem, ils ne parlaient pas tous la même langue, puisque tout le monde ne connaissait pas la langue de son voisin. Mais voilà que le phénomène de la Pentecôte, c'est que les uns se mirent à parler en langue, c'est-à-dire se mirent à parler une langue, la langue de celui qu'ils avaient en face de lui et qu'ils ne connaissaient pas. Un peuple qui commence à nouveau à se comprendre et à s'unir, non pas autour d'un projet fou, mais autour de la personne de Christ, dans l'attente de cette cité céleste. Alors que le Seigneur nous encourage cette semaine, au travers de ce récit, et dans l'attente du retour de Jésus-Christ, qui sera le jugement, on l'a vu la semaine dernière, mais qui sera aussi le début d'une nouvelle cité.